Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici le reportage de Pascal Marcaggi.
Cassandre, tel est le rôle désagréable auquel sont relégués celles et ceux qui n'ont de cesse de tirer la sonnette d'alarme, à leur corps défendant pour beaucoup et sans que cela ne leur rapporte rien. C'est ce qui en fait quasiment des cas d'espèce pour dire l'urgence planétaire. Parmi ceux-ci, Gilliane Le Gallic, elle a pris l'initiative de quitter un poste entre guillemets au chaud dans l'audiovisuel pour fonder Le Jour de la Terre, c'était en 1970 déjà, et se battre pour Tuvalu, le premier état qui disparaîtra sous l'inexorable montée des eaux.
On va jusqu'où comme ça? Je pense jusqu'à l'extinction de l'espèce humaine, malheureusement. Et l'humanité entraînera avec elle toutes les autres espèces, et ça a déjà commencé largement. Ce qui m'interpelle, c'est que nos gouvernants sont quand même informés depuis au moins 40 ans, hein, puisque on dit Rio plus 20, mais c'est quand même Stockholm plus 40. Rien, enfin pas grand-chose a été fait, j'exagère un tout petit peu, mais les avancées sont tellement microscopiques, que c'est vraiment des pas de fourmis. On va dans le mur et rien ne se fait. Ça m'a fait très drôle de lire hier qu'une déclaration avait enfin été prête pour être diffusée dans 3 jours. Donc, j'ai pas tout à fait compris. Mais en tout cas, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'il ne se passera rien. On préfère nier et ne pas voir la réalité. C'est dommage.
Rio plus 20, rien. Tel semble déjà être a priori le bilan de ce formidable raout planétaire. En même temps que s'ouvrait très officiellement Rio plus 20, la ville de Clichy-la-Garenne avait pris l'initiative d'inviter le citoyen lambda à venir écouter et échanger avec un parterre de scientifiques, d'ethnologues, de chercheurs de haute volée. Jean-Patrick Leduc était en direct de Rio plus 20. Jean-Patrick Leduc qui est en charge des affaires internationales au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Déroule ici. Il y a deux grandes familles, il y a toute une grande réunion de la société civile avec toute sa diversité. C'est probablement la partie la plus riche de ce sommet. Il y a le sommet proprement dit et qui, fondamentalement, ce sont des gouvernements qui négocient une déclaration. La société civile y est invitée avec, une toute petite partie de la société civile, parce que c'est essentiellement les ONG et puis les industriels. Tout le monde fait du développement durable, on se demande d'ailleurs comment ça se fait qu'il y a encore des problèmes. Ils ont eu la possibilité de s'exprimer, mais à mon avis, ils ont été assez peu entendus.
On se souvient que les mardis de l'environnement du 15 mai dernier avaient déjà interrogé scientifiques, ONG, officiels à l'ONU sur ce qu'il convenait, à minima et compte tenu des forces en présence, de sauver à Rio. Cette conférence, le 20 juin à Clichy-la-Garenne, également organisée par la Société européenne des réalisateurs de l'environnement, a permis de mesurer d'ores et déjà le décalage entre les premiers symptômes criants du risque qui nous attend et l'étrange surdité de la nature humaine. Exemple, justement, le barrage de Belo Monte au Brésil. Tiens donc, à quoi sert-il? Pas même à fournir de l'énergie. En termes aussi triviaux que la réalité, il s'agit ni plus ni moins d'une pompe à fric et de strictement rien d'autre. François-Xavier Pelletier, naturaliste, ethnologue, écrivain et documentaliste qui travaille au Brésil, tout particulièrement en Amazonie, il est le seul à ce jour à avoir pénétré aussi loin cette réalité.
Si je suis parti là-bas, en fait, c'était parce qu'on a beaucoup parlé du problème du barrage de Belo Monte, qui va être le 3e plus grand barrage du monde, et le Brésil en est très fier. Et moi, ce que je voulais aller faire, c'était vraiment faire un espèce de compte-rendu de ce qui allait disparaître. Et quand je suis allé là-bas, j'ai été catastrophé, révolté, parce que tout ce que j'ai découvert, c'est une monstruosité, c'est un véritable crime contre l'humanité. Et je me suis rendu compte aussi que toutes les informations qui étaient propagées par les North Energy, qui est la compagnie qui s'occupe de la gestion de la construction de ce barrage de Belo Monte, ment, honteusement, mais qu'également tout ce qui est tout autour, en fait, n'est que ignorance et mensonge, tant de la part des ONG que de la part aussi donc, du gouvernement, bien sûr, ou de North Energy, ou des Indiens. Et c'est là où j'étais profondément catastrophé par ce que j'ai vu, révolté, parce que, en fait, moi, mon but, c'était d'abord de montrer ce qu'elle disparaît, donc de valoriser les populations, comme je fais toujours, de faire parler les invisibles, faire parler les gens qui n'ont pas l'habitude de parler, de montrer un environnement qui n'a pas l'habitude d'être connu. Donc là, effectivement, j'ai pris un bateau, pendant 6 mois, on a navigué sur le Rio Xingu, dans la Volta Grande du Xingu, dont personne ne parle, en fait. Quand tout le monde parle du barrage de Belo Monte, tout le monde parle du Xingu et surtout du Alto Xingu à travers le fameux Raoni qui apparaît sans arrêt et qui est en fait très peu concerné par le barrage. Puisque le barrage, c'est la Volta Grande du Xingu qui est un milieu absolument génial, fantastique, avec une biodiversité qui n'existe nulle part ailleurs, même au Brésil, avec des espèces endémiques qui n'existent que là. Et c'est un milieu, une biodiversité qui va totalement disparaître. Alors là, dans tout le travail que j'ai pu faire, je me suis aussi rendu compte des espèces de contradictions qui existent, notamment au sein d'IBAMA, qui est l'organisme qui s'occupe de la protection de l'environnement au Brésil, et qui a donné l'autorisation, parce que pour construire le barrage, il faut ce qu'on appelle la licence environnementale, c'est-à-dire l'autorisation par le ministère de l'Environnement de construire. Et il s'est avéré qu'ils embêtent tous les pêcheurs, les ribérines, ce qu'on appelle les ribérines, ce sont les riverains en fait de là-bas, de pêcher, de cueillir même une liane. Et moi j'ai une interview d'une femme qui cueille des lianes, donc renouvelables, hein, sans ce mot qu'on puisse dire, pour en faire des balais. C'est son gagne-pain. Elle est sans arrêt perturbée par IBAMA, par les fonctionnaires d'IBAMA, qui lui interdisent, qui lui demandent beaucoup d'argent, qui lui piquent tout son matériel, parce qu'ils veulent l'interdire. Et d'un autre côté, ils ont autorisé la construction du barrage qui va absolument tout détruire. Donc c'est là où on se retrouve devant des espèces de contradictions formelles. Mais par contre, la chose la plus grave à dire, c'est que par rapport à Belo Monte, ce barrage n'est pas du tout prévu pour l'énergie. Ça paraît totalement fou de dire ça, mais la raison principale de la construction de ce barrage, ça n'est pas la production d'énergie. La raison principale de ce barrage, c'est la surfacturation des entreprises qui construisent ce barrage. Plus derrière, des choses dont personne ne parle, et qui est toutes les entreprises de minération qui exploitent les minerais et qui sont en symbiose totale avec Norte Energy, donc avec les entreprises de barrage de Belo Monte, un ensemble aussi d'expropriations. Donc il y a toute une espèce de mafia réelle, nationale et internationale, quand je dis nationale, brésilienne et internationale, pour exploiter une zone, mais uniquement à des fins lucratives. Non pas du tout de production, non pas du tout de développement. Donc c'est là où il y a une réelle question qu'il faut se poser pour tous les gouvernements. Pour parler de Rio, par exemple, moi, franchement, les gens qui votent pour quelqu'un, il faut commencer à se poser la question, à quoi sert un gouvernement? Est-ce que ça sert au développement de quelques capitalistes qui exploitent, qui détruisent uniquement pour des raisons financières et pour s'en foutre encore plein les poches de plus en plus, une espèce de maladie psychologique et mentale qui est hallucinante et qui est en train de bouleverser toute la planète et beaucoup les relations sociales? Ou est-ce que c'est le développement du peuple réel qui puissent vivre en harmonie les uns avec les autres? Ça, c'est quand même vraiment, et surtout avec son environnement. Ça, c'est la réelle question qu'il faut se poser.
La folie des hommes. Pourquoi Tuvalu, le symbole non plus du bout du monde, mais de notre réalité qui se rapproche à grandes enjambées pendant que nous lui concédons des pas de fourmi. Fanny Hérault, journaliste scientifique et chargée de mission à Alofa Tuvalu, l'association qui se bat, elle, un îlot de conscience à...
Je suis journaliste scientifique. Je travaille pour un mensuel qui s'appelle Science Frontières, édité par l'association Science Frontières, organisatrice aussi du festival Science Frontières. Dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion, Jean-Yves Casga, mon patron de l'époque, m'a suggéré d'interviewer Gilliane, le Gallic, qui n'avait pas encore monté à Alofa Tuvalu, mais qui en avait fortement envie, et qui venait de réaliser Nuages au paradis, le film sur Tuvalu. Puis j'ai été complètement attrapée par la cause de Tuvalu, de réaliser qu'une nation risquait tout simplement de disparaître à cause de nos bêtises à tous. Et je me suis rendu compte que mon travail de journaliste ne me suffisait pas, qu'il fallait personnellement que je passe à une dimension supérieure et plus activiste que simple journaliste, entre guillemets. Je me suis engagée à 2000% dans l'association.
Tuvalu, maintenant, c'est un petit peu connu. Le grand public n'ignore plus Tuvalu. Pensez-vous qu'il fait un lien avec son propre sort?
C'est pas certain. Par exemple, hier, au journal de 20h sur France 2, il y a eu un petit sujet sur Rio. Le journaliste terminait son sujet en disant « Tous les indicateurs de la planète sont dans le rouge ». Sa phrase démarrait par « Personne fait rien, on est sans doute là pour pas grand-chose ». Son sujet après, sa transition, c'était « Bon, maintenant, parlons d'avenir ». On va parler de Dionik. Il venait de parler d'une absence de futur pour la planète, ou en tout cas d'un futur compromis. Mais c'est pas grave, on continue d'avancer, de trouver que c'est génial, la robotique et tout ça, et tant mieux. Je veux dire, le progrès technologique, pourquoi pas. Non, on ne fait pas le lien. On a un vrai problème d'espace-temps. On ne se rend pas compte de l'imminence, mais moi, la première, je veux dire, on n'a pas envie non plus de penser que dans 20 ans, ça va commencer à être difficile, que dans 50 ans, il n'y aura probablement plus de poissons commerciaux. Tout est vraiment plus qu'au rouge. Il y a des moments où on a envie de l'oublier, mais on arrive peut-être à un moment où il faut qu'on l'admette.
Rio plus 20, ça sert à quelque chose?
Je ne suis pas très habituée de ces grands messes, mais on a eu la chance d'accompagner la délégation tuvaluenne à Copenhague en 2009. On y est allé avec plein d'envie et plein d'idéaux, et on imaginait vraiment que ça allait être quelque chose d'énorme et qu'enfin la cause climatique allait s'emballer. Puis pas du tout. Finalement, le raisonnement qu'on tient, et c'est que peut-être que c'est nécessaire, ces grands messes, j'en sais rien. C'est probable qu'il faut que les dirigeants de la planète se rencontrent. C'est pas là que ça avance. Nous, ce qu'on se contente de faire à notre petite échelle d'Alofa, c'est déjà d'essayer d'être nous, cohérents avec nous-mêmes dans notre vie quotidienne et pas prôner des trucs qu'on fait pas. Donc, on est vraiment très cohérents. Et puis, c'est de faire des actions concrètes qui rendent tout de suite service au Tuvaluien. Quand on met en place un biodigesteur familial, la famille qui a le digesteur, elle utilise les déjections de ses porcs pour alimenter son digesteur et elle fait sa cuisine avec du gaz gratuit. C'est concret, ça marche tout de suite. Certes, c'est une micro-échelle, mais il faut sans doute pas avoir à notre échelle l'ambition de changer le monde. Mais c'est probablement pas à Rio que les grands changements vont se produire, en tout cas.
Impressionnant que l'océan qui remonte sous la forme de grosses bulles par le sol et que ces vagues qui vous envahissent sans coup férir, qui enverra une bouée de sauvetage à l'humanité, les Martiens peut-être un scénario catastrophe qui n'est en rien un épiphénomène. Songeons aux coraux. 95% des poissons ont besoin des coraux pour vivre et plus d'un traitement anticancéreux notamment provient des coraux. Mais continuons, cyanure, bombardement, pollution, 70% des coraux sont en mauvais état. Pascal Jouanneau, délégué à l'Outre-mer au Muséum National d'Histoire Naturelle, chef du chantier des collections et pilote du programme Biodiversité des récifs coralliens de l'Outre-mer dans le cadre de l'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens.
Je sais qu'il y a beaucoup de scepticisme autour de toutes ces grandes manifestations depuis des années, parce qu'on a eu quand même l'échec de Copenhague. Mais moi, ma note d'optimisme, c'est que Rio moins 20, donc il y a 20 ans, là je vais parler de ma partie, des récifs coralliens, il y a 20 ans, on a mis en place une des actions de l'agenda 21, c'était la protection et la gestion des récifs coralliens et récifs associés. Suite à ça, on a mis en place l'International Coral Reef Initiative en 1994. Puis la France, qui est quand même le quatrième pays au monde pour ses récifs coralliens, a pris le relais en 1999 en créant l'Initiative française pour les récifs coralliens. Donc depuis, on essaye de sensibiliser tous les jours dans les collectivités d'outre-mer, les gens de l'IFRECOR essayent de sensibiliser pour mieux gérer en amont, parce que les récifs coraliens permettent de nourrir à peu près 8% de la planète, puisqu'il y a plus de 500 millions d'habitants qui habitent autour des récifs coralliens, qui tirent 90% de leurs protéines des récifs coraliens, et donc il ne faut pas qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, et ça marche plus ou moins bien. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'à Rio plus 20, on ait pu faire, je pense que ça aura été fait, enfin j'espère, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? Qu'est-ce qu'on connaît depuis 20 ans ? Faire un peu un bilan de toute la connaissance. Ça aurait été, à mon sens, aussi intéressant d'un point de vue scientifique, bien entendu, mais aussi d'un point de vue médiatique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans ? Qui est bien, parce qu'on critique tout le temps. Finalement, on a fait quand même pas mal de choses en pas trop longtemps, parce qu'on a mis du temps à détruire la planète. On a des problèmes, là, maintenant, il faut être clair. Et peut-être qu'en effet, Rio plus 20 pourrait mettre à jour tout ce qui a été fait. Objectivement, bon, ça c'est peut-être plus difficile, objectivement ce qui a été fait, tout ce qui reste à faire, pourquoi on l'a pas fait.
Étrange époque où l'homme s'amuse à un bras de fer avec la nature pour sauver un hypothétique train de vie fait de frigos et autres quincailleries quand pas un euro ou dollar n'ont jamais fait respirer la moindre bulle d'air à notre organisme. François-Xavier Pelletier.
Autrefois, quand les gens s'installaient quelque part, c'est qu'ils s'installaient, qu'ils savaient qu'ils avaient tout sur place. L'énergie dont ils avaient besoin, la nourriture dont ils avaient besoin, tout. Là, maintenant, quelqu'un s'installe n'importe où et fait tout venir ce dont il a besoin. Donc là, il y a quand même un problème sérieux. Donc je pense qu'il faut revenir à des notions beaucoup plus saines. Si les gens veulent continuer ce développement en ville, complètement déconnecté, hors sol, c'est leur problème. Mais par contre, qu'ils n'aillent pas, je dirais, assassiner les gens qui vivent encore cette nature. Et là, moi, j'en arrive aussi à une chose qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que avec cette notion de protection de la nature, moi je m'estime écologiste, je m'estime protecteur de la nature. Mais je ne suis absolument pas chasseur, surtout pas, ni pêcheur. Mais comment peut-on empêcher quelqu'un de population traditionnelle de vivre de sa chasse ou de sa pêche ? C'est monstrueux. Quand on voit sur le site de destruction de Belle-Aumanche, sur la digue là, qu'ils sont en train de construire, qu'il y a un grand panneau d'Ibama du ministère de l'Environnement disant « Halte, il faut préserver l'environnement ». Ils sont quand même culottés. Il est interdit ici de chasser et de pêcher, alors que leur barrage va détruire tout ce qui est chasse, enfin tout gibier et tout poisson. Ils se moquent du monde. Là, on se retrouve maintenant devant des notions, des gens, à commencer par des écologistes, qui avancent des choses et qui disent « ne faites pas, enfin faites ce que je dis, mais surtout ne faites pas ce que je fais ». Et parmi tous les gens qui sont un peu les fers de lance actuellement au niveau de l'écologie, c'est ce langage et ce discours-là. Ce sont des gens qui, humainement, ne sont pas respectables. Et là, on se retrouve devant des situations de consensualité qui est en train de détruire la planète.
Une surdité réellement proche de la pathologie, Gillian Le Gallica.
Je pense quand même que la planète aujourd'hui est dirigée, peut-être qu'elle l'a toujours été, hein, mais enfin bon, je vis maintenant, par des gens dont la première préoccupation est d'amasser le plus, que ce soit du pouvoir ou de l'argent. Et bon, ça donne les résultats qu'on connaît. Il y a aussi le fait que l'homme est corruptible, donc corrompu. Au-delà, je suis pas ethnopsychiatre.
La note d'optimisme telle une goutte d'eau dans l'océan, il y en a quand même une, Pascal Jouanneau.
Alors la note d'optimisme, vous me demandez la note d'optimisme de Rio plus 20. Je serais assez modérée sur toutes les critiques qu'il y a par rapport à Rio plus 20, parce qu'en effet, c'est des grands messes où on dépense beaucoup d'argent. Mais je pense aussi que c'est une façon aussi aux petits pays de se faire connaître, de se rencontrer avec les plus grands, peut-être d'échanger, peut-être d'établir des programmes de recherche, des programmes de développement, des programmes de gestion de l'environnement. Alors c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais je pense que ça existe. Et ben, il faut en tirer profit. Voilà.
L'autre note d'optimisme, c'est le citoyen lambda qui, lui, a choisi de s'informer.
Simple citoyen, et ça permet déjà de faire connaître qu'est-ce que c'est que Rio plus 20 et d'essayer de participer le plus possible à tout ce qui est proposé. Bon, c'est vrai que le barrage au Brésil a été très, très poignant aussi, parce que quand on voit la puissance du capitalisme, on peut s'interroger. Puis ce petit archipel qui est en voie de disparition, bon, c'est vrai que tout ça... Ça doit nous interpeller.
Ça m'a intéressé. Les coraux, les inondations, enfin, tout ce que j'ai vu ce soir, là, ça m'a intéressé.
Je suis venu parce que depuis 40 ans, j'ai toujours travaillé dans tout ce qui est environnement, énergie, économie d'énergie, économie d'eau, essentiellement. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui m'intéresse. Puisque moi-même, j'ai fait mission Antarctique.
Lichy Lagarenne a décidé de ne pas attendre Rio, peut-être bien que oui ou plutôt non, pour informer et rendre partie prenante ses administrés. Annabelle Galigné, élue de Clichy au développement durable.
Le développement durable commence à mettre ses marques sur la ville, tout doucement. J'ai la délégation depuis le mois de décembre. On vient de mettre en place le plan climat et puis le plan contre le bruit. Nous avons travaillé sur la biodiversité et nous allons installer les ruchers demain. C'est une petite pierre à l'édifice, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Et j'en suis ravie, notamment avec mon collègue qui a aussi la délégation des espaces verts et de l'environnement. Nous privilégions aussi sur les espaces verts la biodiversité au niveau des insectes, au niveau des plantes. Les clichois commencent à être interpellés. Les massifs ne sont plus du tout comme ils étaient. Ça change de ce qu'ils ont connu et ils se posent des questions. Bon, on n'arrive pas à convaincre tout le monde, mais du moment qu'ils se posent des questions, c'est déjà un bon point.
De cette conférence, hein, quelle est l'intervention qui vous-même hein, vous a le plus ému ou intéressé?
Ému, certainement, la grande marée à Tuvalu. Certainement, c'est celle-ci qui m'a ému le plus, parce que vraiment, on était en prise directe avec les souffrances que vive la population. Et ce qui a été dit sur le barrage au Brésil montre bien le langage à double sens des politiques. D'un côté, on fait en sorte d'aider la planète, et de l'autre côté, c'est toujours l'argent qui mène le monde. C'est le côté très négatif de la politique, c'est tout ce que je déteste. J'espère pouvoir présenter son film au Rudebeuf, au cinéma de Clichy. Les coraux, c'était passionnant. Par exemple, tout le côté de la pharmacopée, je l'ignorais totalement. Tout était intéressant ce soir et je trouve qu'on a mis justement la barre très haut. Et bien sûr, le vagabond aussi, c'était passionnant. C'est dommage qu'on n'ait pas pu lui parler en direct. Mais moi qui ai eu la chance d'aller au pôle Nord, j'ai vu en plein mois d'août les icebergs bleu ciel et ça a été pour moi le choc de ma vie. Je crois que je m'en remettrai jamais. J'imagine un peu la vie qu'il a sur son bateau pris dans les glaces 8 mois par an. Non, tout était très intéressant et tout suscitait beaucoup d'interrogations, de questionnements de notre part à tous. Je suis très très contente.
Rio plus 20, que cela échoue ou pas, vous en tant que politique locale?
En tant que politique locale et surtout en tant que citoyenne, je vais continuer, je vais essayer de travailler beaucoup beaucoup avec les jeunes générations en mettant en place un concours sur qu'est-ce que le développement durable, ce que représente le développement durable. Ce concours, je vais le lancer en octobre, donc ça sera à eux de faire production, soit de dessins, soit de films, soit d'écrits. Et au moment de la semaine du développement durable, je ferai venir un jury et nous les récompenserons de livres sur toute cette thématique de l'environnement, de l'écologie, pour venir enrichir les bibliothèques scolaires.
À Clichy-la-Garenne, Rio plus 20, ce fut une conférence simultanément et en direct avec le sommet des chefs d'État, avec des citoyens lambda peut-être, mais suivis d'actions qui portent déjà leurs fruits.
C'était un reportage réalisé par Pascal Marcaggi.